Bienvenue dans Destination CRFPA, un podcast réalisé par trois étudiants ayant obtenu leur examen en 2019 qui décortique pour vous toutes les étapes obligatoires à passer avant et après ce fameux examen. Conseils et astuces en tout genre, nous parlons sans langue de bois et en toute simplicité de tous les aspects de l'examen pour vous aider à mieux l'appréhender et à le réussir. Avant de commencer cet épisode, prenez 2 minutes pour rejoindre le Discord de l'émission dont le lien est en description. Vous y retrouverez tous les documents que nous mettons à votre disposition et vous pourrez échanger avec nous et le reste de la communauté pour répondre à toutes vos interrogations et vous permettre d'appréhender sereinement ce marathon qu'est le CRFPA. Merci et bonne écoute.
Défendre, c'est cela. C'est se refuser à accepter ce que autrui veut vous imposer.
Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Destination CRFPA. Cette semaine, nous parlerons des examens blancs, comment les gérer, qu'en faire, comment les utiliser, comment les réaliser. Et c'est un sujet qui était prévu de longue date, mais c'est aussi un sujet qui est ressorti lors du live organisé la semaine dernière. Live qu'on reproduira sûrement sous forme de questions-réponses, donc à la fois questions à l'écrit ou à l'oral. Ça s'est plutôt bien passé. Pour nous, c'était une première fois. Et il y a eu presque... Alors, on a calculé, on était dans nos petits chiffres. Presque 10% de la communauté Discord qui a participé. Donc, c'est super. Si jamais ça vous a plu, revenez. Si jamais ça vous a pas plu, dites-nous pourquoi. Comme ça, on essaie de l'améliorer. Mais en tout cas, cette semaine, on traitera de ce sujet des examens blancs. Avant ça, avant d'entrer dans le vif du sujet, cet épisode donc sortira le 1er mai et donc à 3 mois avant l'examen du CRFPA. Et à ce titre, Anthony Roustan va nous faire un petit rappel, un petit topo à 3 mois. Où est-ce qu'on en est? Comment ça se passe? Quand est-ce qu'il faut stresser? Est-ce qu'il faut stresser? Alors Anthony, la parole est à toi.
Merci Antoine. Bonjour à tous. Oui, donc juste, ça sortira le 1er juin. Hein. Du coup, oui, il vous reste 3 mois là pour réviser votre CRFPA. Donc l'été commence, ça va commencer à s'accélérer un petit peu parce qu'après vous allez voir, ça va aller très très vite. Donc est-ce que c'est grave si vous n'avez pas commencé à réviser à ce stade? Pas du tout. C'est pas grave du tout. Si vous avez fini récemment vos examens, vous avez le droit de vous octroyer une semaine ou deux de repos et de commencer vers le 10 juin. Il y a pas de souci. À condition que vous vous y mettiez sérieusement après, une fois que vous avez pris votre repos. Donc ça, vraiment, ne stressez pas si jamais vous vous dites « autour de moi, je vois que des gens qui ont commencé à réviser ». C'est pas grave si vous n'avez pas commencé. Vous pouvez encore vous octroyer une dizaine de jours pour vous reposer si vous en ressentez le besoin. Donc après, juste pour vous récapituler rapidement, mais ça a déjà été dit dans les épisodes précédents, mais peut-être que c'est peut-être important de le rappeler. Comment nous, on conseille de procéder? Là, vous allez être dans le mois de juin où il n'y a pas encore les prépas, pour ceux qui ont pris des prépas. Donc, n'hésitez pas à prendre un bouquin pour commencer à réviser, ou alors à réviser avec des fascicules peut-être qui datent de l'année dernière, mais c'est pas forcément optimal. Donc ouais, prenez un bouquin, et nous, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de commencer par la matière avec laquelle vous avez le plus de difficultés. Parce que lorsque vous êtes en juin, vous avez encore le cerveau qui est bien frais, qui est très disponible. Donc ça va être beaucoup plus facile d'emmagasiner les connaissances sur des matières que vous trouvez compliquées, et après vous pourrez vous mettre sur des rails pour les matières qui sont plus simples quand vous avez déjà un peu utilisé votre capacité de travail. Donc nous, c'est ce qu'on vous conseillait. Et pendant aussi cette période, vous allez pouvoir commencer, du fait que vous n'avez pas les fascicules, que voilà, on commence tranquillement, essayez peut-être le soir de commencer à faire votre veille jurisprudentielle en essayant de voir un peu les arrêts importants qui sont tombés en droit des obligations et dans vos matières de spécialité depuis l'année dernière. Donc, on vous avait donné quelques conseils pour faire vos recherches. N'hésitez pas à aller sur Dalloz Actualité, par exemple, ou sur les revues Dalloz pour trouver des jurisprudences pertinentes. Et si vous vous en sentez bien, une fois que vous aurez bien avancé dans le mois de juin, que vous aurez fait deux semaines ou 3 semaines de révision, vous pourrez commencer à travailler sur des examens blancs, les thèmes que vous avez déjà vus. Ça vous permettra de commencer à vous familiariser avec le type d'examen qu'est le CRFPA avant de vous lancer dans la prépa. Donc voilà, ne stressez pas, c'est pas du tout le moment de stresser, c'est le moment de commencer tranquillement, de se mettre un petit coup de fouet et de se dire le marathon ne va pas tarder à commencer. Mais comme bien sûr c'est un marathon, il ne faut pas se cramer dès le début. Voilà, donc je ne sais pas si les gars, vous avez quelque chose à ajouter, un autre petit conseil avant qu'on commence à traiter du sujet du jour qui est donc les examens blancs. Peut-être Antoine ou Xavier?
Non, j'ai pas spécialement de conseils à rajouter parce que t'as bien résumé la situation. Mais vraiment, le truc, c'est que voilà, avec l'épisode de la semaine dernière, on était un peu dans la réflexion, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Mais maintenant, voilà, tout le monde a pris la décision. Et si vous nous écoutez, c'est que vous êtes toujours dans l'optique de préparer le CFPA. Donc voilà, 3 mois, c'est ce qu'il faut. C'est pas peu. C'est beaucoup de temps pour pouvoir vraiment réviser. Donc allez-y à fond. Et pour commencer là sur le thème d'aujourd'hui des examens blancs, on devait le faire comme disait Antoine l'épisode il y a un petit moment, mais c'est revenu là lors de la session questions-réponses de mercredi dernier où on nous a demandé comment concrètement on avait préparé les examens blancs, est-ce qu'on les faisait à chaque fois ou est-ce que c'était un peu moins fréquent. Et pour commencer à répondre à la question, nous, avec Anthony, on avait, comme vous le savez peut-être, la note de synthèse un peu en filigrane tout au long du deuxième semestre. Donc on s'était entraîné quand même pas mal à rédiger des notes de synthèse tout au long du semestre. Mais après, arrivé à l'été, ben, la prépa nous en retenait, on en avait encore 8. Et c'est vrai qu'une fois qu'on avait maîtrisé la note de synthèse, c'est beaucoup d'investissement et parfois on n'a pas l'impression d'être payé à sa juste valeur. Pas que les notes soient bonnes ou mauvaises, mais c'est 5 heures où vraiment on est fatigué à la fin. Et une fois que j'avais plus ou moins maîtrisé la méthode et que je voyais que dans les corrections, la méthode était comprise, donc parfois c'était un manque de style ou... Ou parfois c'était des erreurs de compréhension, d'inattention. C'est vrai que sur la fin, genre par exemple les notes de synthèse du mois d'août, j'ai un peu moins été assidu parce que voilà, il fallait peut-être aussi réviser ailleurs et rattraper du temps un peu perdu. Donc pour commencer, je dirais que la note de synthèse, c'est quelque chose que, une fois que j'avais maîtrisé, j'ai un peu ralenti le pas sur ma régularité des notes. Et vous, toi Antoine, ça se passe comment toi pour commencer pour les examens blancs?
Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. Alors déjà, ça, en fait, ça va dépendre de si vous avez une prépa ou non. Si vous avez une prépa, ça veut dire que vous avez des corrections. Et si vous avez des corrections, dans ce cas-là, sachez que ce sont ces corrections-là qui ont la plus grande valeur dans tout ce que vous donnent les prépas. Et qu'elles sont intimement liées en fait avec les examens blancs. Donc c'est une première situation. La deuxième, c'est la note de synthèse qui pour moi est un peu à part, comme tu disais Xavier, puisque la note de synthèse, en fait, c'est une épreuve qui, à la différence de toutes les autres, est une épreuve de chrono. Les autres le sont aussi, mais pas uniquement. L'ANS, pas uniquement, mais le chrono est important. Et ce que je veux dire par là, c'est que faire l'ANS en condition, c'est essentiel. Les autres épreuves, j'ai jamais réalisé un examen blanc en condition à part l'ANS. Puisque les autres, de toute façon, ce qui m'intéressait, c'était quel raisonnement, quelle forme a été suivi. Et tout ça, je l'avais dans la correction, en fait, vu que j'avais une prépa. Pour ceux qui n'ont pas de prépa, c'est peut-être pas la même attitude qu'il faut adopter sur les autres examens. Mais donc, si on prend toutes les matières sauf NS, je crois que ce qui est important, en fait, c'est de voir si on est capable très rapidement de comprendre le problème de droit, enfin les problèmes, puisqu'en général il y en a plusieurs, et je sais que souvent j'en loupais un parce que les examens blancs des prépas sont très très durs en général. Savoir, une fois qu'on a ciblé tous ces problèmes, est-ce qu'on est capable d'y répondre et est-ce que notre réponse suit en fait un protocole, un syllogisme qui est compréhensible, qui est intelligible, qui est logique. Ceux de la prépa le sont en général, enfin le sont tout le temps. Mais il ne faut pas s'inquiéter si vous en avez un différent qui n'est pas celui qu'il y a dans la correction, si le vôtre a l'air cohérent. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté-là avec toutes les matières sauf l'ANS. Ce qui est intéressant, c'est plus de, de chercher à être capable très rapidement de comprendre le sujet, de se poser les questions et de mettre les réponses. Moi, je sais qu'en général, je prenais 45 minutes max pour des épreuves qui durent 3 heures, sauf pour procédures qui duraient 2, et je mettais que les points importants. Je ne rédigeais jamais. Pour la note de synthèse, je faisais pas ça parce que, enfin, moi, j'ai eu des difficultés en NS, j'ai eu 6 le jour de l'examen. Mais pour la NS, je faisais pas ça et j'essayais vraiment de terminer dans les temps, rédaction comprise et relecture comprise. Parce que la NS, c'est vraiment, pour moi, c'est un exercice à part qui mérite, en fait, presque une méthode de travail qui est complètement différente de celle des autres épreuves. Donc ces examens blancs, très importants dans les deux cas, à ne pas aborder de la même façon, je dirais. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anthony.
Ouais, juste avant de donner mon avis, Antoine, il y a un truc que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Toi, en fait, ce que tu faisais, c'est que même les examens blancs qui étaient corrigés par ta prépa, c'est-à-dire ceux que tu devais scanner et envoyer, tu les faisais pas dans les conditions ou c'est juste les examens blancs que tu faisais en plus ?
Ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais, moi, en fait, non, je suis ok. Moi, je parlais que des trucs en plus que de ceux que je fais chaque semaine. Chaque semaine, j'ai un examen blanc. Mes pré-barreaux nous envoyaient 20 000 examens blancs en plus. Et en fait, donc, il y en avait un par semaine que je faisais en conditions réelles, dans les temps et que j'envoyais, mais tous les autres, je ne les faisais jamais en conditions réelles.
Ok, donc ouais, c'est bien ce qui me semblait, parce que je ne suis pas sûr que c'était très très clair. Bah, moi, c'était exactement pareil, en fait. C'est la synthèse de ce que dit Xavier et Antoine, hein. Donc, comme Xavier, j'avais la prépa note de synthèse depuis le mois de janvier, donc j'ai pu faire des notes de synthèse blanches dès le mois de janvier. J'en avais fait 5 ou 6 pendant jusqu'au mois de juin, quoi. Donc c'est pas non plus énorme, mais ça m'a permis de commencer à travailler un peu la matière, sachant que j'étais très très mauvais et que j'ai jamais dépassé les 10 à la prépa, et même à l'examen final j'ai eu 10. Donc c'était important que je fasse des notes de synthèse blanches. Donc j'en ai fait voilà 5 ou 6 de janvier à juin, et puis après pendant la prépa on en avait une par semaine, donc ça m'en a fait 7-8 en plus. Et après, comme Antoine, on faisait les examens blancs avec Xavier en présentiel sur place. Donc, on était obligé d'être dans les conditions d'examen vu que on devait rendre les trucs à l'heure et tout. Donc, c'était vraiment cool pour le coup d'avoir une prépa en présentiel pour pouvoir se forcer à faire le truc dans les conditions d'examen. Et les examens blancs que je faisais en plus, c'est-à-dire, on vous l'a déjà expliqué, notamment le soir après avoir fini de réviser, c'est vrai que ça peut être sympa de faire un examen blanc sur les thèmes qu'on a vus dans la journée pour se tester et pour voir si on a ce qu'on a retenu et ce qu'on n'a pas retenu. Donc cela, c'est vrai qu'il s'était souvent fait plus rapidement en 45 minutes avec un plan détaillé justement pour pas perdre trop de temps et pour pouvoir en faire un ou deux plutôt que d'en faire un seul, quoi. Donc enfin deux ou trois même plutôt que d'en faire un seul. Donc voilà, c'était ça là, qu'on faisait. Mais donc en synthèse, il faut faire des examens blancs dans les conditions, ça c'est important, parce que sinon, vous allez arriver le jour de l'examen et vous n'allez pas maîtriser votre gestion du temps, en fait. Mais après, quand vous en faites des extras, des supplémentaires, si vous vous cassez la tête à les faire tous dans les conditions, vous allez perdre vachement de temps. Alors qu'en fait, arrive un moment où vous devez être dans la productivité, et il vaudra mieux en faire deux ou trois en plan détaillé, en mettant juste les articles pertinents et les idées principales. Et après, à regarder la correction, plutôt que d'en faire de tous les faire en un temps beaucoup plus long, mais du coup d'en faire beaucoup moins. Et après, peut-être toi Xavier, tu peux peut-être me dire après comment tu faisais du coup pour travailler avec la correction, c'est-à-dire une fois que tu avais fini ton examen blanc, qu'est-ce que tu faisais avec la correction? Tu la lisais, tu prenais des notes, tu faisais des fiches, comment tu travaillais ta correction d'examen blanc une fois qu'il était fait?
En fait, la correction, elle est donnée à la fin de chaque examen blanc. Donc, on l'a direct après l'examen. Donc, ça permet de vérifier un peu ce qu'on a mis à l'intérieur de la copie. Donc, c'est du tout frais. Et surtout, ce que je faisais, c'est que quand je me remettais à travailler la matière, je commençais par reprendre la correction et préparer toujours ce qu'on disait. Et ce qu'on a mis en ligne là sur le Discord de la semaine dernière, le protocole de résolution par rapport aux questions. Donc une fois qu'on a la correction, on identifie les questions qui ont été posées dans l'examen, et tout de suite on pose sur le papier les grandes étapes de résolution de la question. Donc je dirais qu'une fois qu'on a la correction, il faut pas la ranger comme on aurait tendance à faire en temps normal, parce que une fois que c'est passé et il faut aller de l'avant. Il faut vraiment prendre du temps pour voir ce qu'on n'a pas forcément vu et ce qu'on a vu, voir si on a bien vu et on l'a bien orienté et assez détaillé par rapport aux corrections. Après aussi, il y a une question qui nous avait été posée. Comment concrètement on fait pour gérer le temps lors d'une épreuve? Et c'est vrai que c'est parfois, au début, on avait du mal à tenir le temps pendant les épreuves, parce que on avait peut-être perdu l'habitude de timer nos épreuves. Et ce que je faisais, et ce qui était assez efficace, c'est que au début de l'épreuve, on a toujours le barème au CRFPA. C'est-à-dire que vous allez toujours savoir qu'en fonction des questions ou des grandes questions, vous allez toujours avoir le nombre de points qui est attribué aux questions. Et en fait, avant l'épreuve, je répartissais mon temps des questions en fonction du nombre de points. Donc concrètement, qu'est-ce que ça pourrait donner? Si je me rappelle bien, pour l'épreuve de fiscalité, il y avait une grande question sur, enfin, une grosse partie sur les impôts sur les sociétés qui était sur 12 points et une plus petite partie sur la TVA qui était sur 8 points. L'erreur, ce serait de passer autant de temps sur la partie impôts sur les sociétés et la partie TVA. Parce qu'au final, il n'y a pas le même nombre de points. Donc, il faut réussir à avoir le bon dosage pour dire, bah, si la question elle vaut 12 points, j'y passe tant de temps par rapport au temps qui m'est alloué. Et inversement, si c'est par exemple une question à 4 points, je ne vais pas passer une heure dessus. Parce que sur une épreuve de 3 heures, passer une heure sur une question à 4 points, ça n'a pas de sens et c'est pas stratégique du tout. Donc, même si c'est un peu frustrant de se dire, je vais passer à la question d'après, même si je n'ai pas terminé au bout du temps, il faut se forcer à se dire, c'est sur 12 points, je passe 1h30, 1h40. Mais une fois que c'est passé, il faut absolument que je passe aux questions d'après, parce que même stratégiquement, je pense qu'il est plus simple d'aller chercher les premiers points d'une question, c'est-à-dire avoir par exemple sur 8 points 4 sur 8, que d'aller chercher les derniers points, c'est-à-dire aller chercher 7 sur 8, 8 sur 8. Donc le temps, je dirais que le temps marginal que vous passez sur une question, il est moins bénéfique par rapport aux premiers instants que vous passez sur une question. C'est un peu long et c'est pas forcément peut-être clair, mais vraiment la gestion du temps, il faut vraiment qu'au début de l'épreuve, vous ayez une feuille de route et des balises pour vous dire à tel instant de l'épreuve, il faut que je passe, il faut que j'avance, qu'importe si j'ai bloqué, mais il faut que je débloque des nouveaux points sur d'autres questions.
Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que dit Xavier, et c'est peut-être là que ce que je vous disais avant fait défaut, c'est que la gestion du timing est essentielle. Et donc, je l'avais pas précisé et je le précise maintenant, mais Anto m'a repris. Je parlais de toutes les épreuves qu'on fait en plus de l'épreuve hebdomadaire qui, elle, doit se faire dans le temps. Parce que c'est vrai que la gestion du temps, c'est essentiel. Ça peut mener à, en fait, bah, c'est simple. Une question sur 5 points qui est loupée, on est noté sur 15. Sachant que la notation est dure au CRFPA, celui qui a 12 sur 15, il est solide, il aurait eu 16, en principe. Donc le temps, il faut vraiment bien le gérer. Il faut le voir venir, il faut l'anticiper, il faut avoir pris l'habitude. Mais maintenant, sur les examens blancs à 100%, donc ceux que vous faites une fois par semaine, dans le temps, justement, ça sert à ça. Sachant que, attention, les prépas souvent mettent des choses qui ne peuvent pas être faites en 3 heures ou en 2 heures. Donc, j'ai envie de dire, c'est limite mieux, puisque si vous arrivez à la fin à faire celui de la prépa en 3 heures ou en 2, ben, le jour J, en principe, ça vous posera pas de problème. Et puis, en fait, il y a un facteur que moi, j'ai découvert le jour de l'examen. Je sais pas si vous, ça vous l'a fait, les gars. C'est le jour de l'examen, on porte une attention toute particulière à nos réponses, à notre raisonnement et à notre écriture. Et donc, en fait, je sais que, mine de rien, j'ai été plus long dans mes raisonnements le jour J parce que je voulais que ce soit parfait. Parce que je le vérifiais 3 fois au lieu de 2. Et en fait, tout ça, ce luxe de pouvoir vérifier une 3e fois, alors que d'habitude je le vérifie que 2 fois, eh ben j'ai pu me le permettre parce que justement en prépa, Et lors des examens blancs hebdomadaires, les examens étaient trop longs et donc j'ai dû aller super vite. Et donc je savais que j'avais un peu de marge de manœuvre qui m'était pas donnée d'habitude. Et en fait, ça, on le voit clairement quand on attaque le sujet. Par rapport au sujet de prépa, il y a une voire deux questions en moins. Et en fait, on voit vite là où ils veulent nous mener. Et un sujet, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, un sujet de procédure, c'est trois questions. Un sujet de oblige ou votre spé, c'est quatre questions. Et ça peut varier, mais dans l'idée, c'est ça. En prépa, c'est pas ça. En prépa, en procédure, il y a 5 questions. Et dans les autres matières, il y en a 6. Et si on part en live, il peut y en avoir 8. Donc en fait, on est surentraîné. Si on fait toutes les épreuves des prépas dans le timing. Moi, je sais que j'arrivais pas, je finissais rarement. Mais le jour J, ça a été très utile. Et maintenant, pour les autres examens blancs, ceux que vous faites en plus de l'examen hebdomadaire en condition, pour ces autres-là, il faut vraiment que ce soit votre base de protocole. Vos majeures, elles sont là. Et c'est trop important. Alors moi, j'ai beaucoup appris en termes de rédaction. Je me suis rendu compte que j'avais une mauvaise rédaction, en fait. C'est marrant de s'en rendre compte à la fin d'un Master 1 ou d'un Master 2, mais je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais pas écrire le droit. Et que dans toutes mes copies que je rendais jusqu'à présent, je pense que j'avais 50% de bullshit. 50% de trucs qui ne servaient à rien. Et moi, ces examens blancs, ils m'ont permis de me rendre compte que 50% des trucs que je disais ne servaient à rien. C'était pas du droit, c'était que des faits, mais sans, non basés sur des bases, sur des règles de droit. Et je les ai évacués, en fait, à force de lire des corrections. Donc, enfin, moi, si j'étais vous, je ne ferais, enfin, pas que ça, mais je prendrais un temps fou à lire les corrections et à voir ce que ça fait un correcteur, du coup, qui n'écrit que du droit et que des choses qui permettent de prendre des points. Parce qu'en fait, je pense que le jour J, le correcteur, je sais pas combien vous êtes dans votre IEJ, mais nous, à Paris 1, je crois qu'on devait être, j'ai pas le nombre exact, mais je dis 2005, c'est peut-être un peu moins, c'est peut-être un peu plus. Mais alors, il n'y a pas un seul correcteur, il y en a plusieurs. Mais le mec, il a quand même dû se manger 20 corrections d'oblique dans la même journée. Si je lui mets du bullshit, je pense qu'il en a marre. Alors que si je lui mets que du droit pur, je pense qu'il est content, en fait. Je le laisse tranquille, je l'embête pas. Il voit que je connais la règle, il sait que j'ai identifié les faits, et tout va bien. Et je pense que les corrections, elles servent vraiment à ça. Elles servent particulièrement à ça, et il faut les lire. Parce que c'est... Enfin, moi, je sais que j'ai appris grâce à ça, et j'ai appris ce qu'était le syllogisme grâce à ces corrections.
Ok, ouais, bah, moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites tous les deux, hein. J'ai pas grand chose à ajouter. Vraiment, je pense qu'il faut insister sur le fait que c'est important d'en faire au moins un par semaine dans les vraies conditions. Moi, je sais que j'avais des potes qui n'ont pas fait l'effort et qui se sont pas forcés à les faire dans les conditions, notamment pour un note de synthèse, que c'est vrai que c'est compliqué quand même de se mettre 5 heures tout seul chez soi, ou même dans une bibliothèque, 5 heures sans lever les yeux et à faire que de la note de synthèse sans être distrait. Ça peut être très très compliqué si on n'est pas sur place. Et du coup, je sais moi je connaissais des gens qui ont pas fait l'effort et je pense que c'est très très dangereux. Bon, ces personnes-là, en l'occurrence, ont quand même réussi à avoir l'examen, mais c'est très très dangereux et vous arrivez devant votre CRFPA le jour J. Si vous avez jamais fait d'examen dans les conditions, vraiment, vous avez pas l'habitude et vous allez perdre beaucoup de temps à vous approprier l'épreuve. Donc, vraiment, je pense qu'il faut insister sur le fait de vous forcer à en faire au moins un par semaine dans les conditions d'examen. Et si vous avez la chance d'être corrigé par des correcteurs de prépa, donc c'est vrai que souvent les examens sont plus durs et en plus les notations sont plus dures, mais au moins ça va vous permettre de vous perfectionner, de vous aiguiser comme une bonne lame. Et ces corrections, en fait, vous devez absolument les lire, c'est très important, faut pas juste regarder la note que vous avez eue et vous dire « putain, j'ai eu une mauvaise note, bon, tant pis, voilà, c'est chiant ». Non, non, il faut que vous regardiez pourquoi vous avez eu une mauvaise note et ce sur quoi on vous attend, en fait. Je sais que moi, sur la note de synthèse, j'avais reçu beaucoup, beaucoup de remarques. Et au bout de 7 ou 8 examens corrigés, je commençais à voir mes faiblesses. Bon, ça m'a pas permis de décoller sur la note de synthèse, mais ça m'a permis de sauver les meubles parce que je savais les erreurs que j'avais faites et je savais qu'il fallait que j'essaye de les éviter au plus possible. Pareil en oblige, mes premiers examens blancs, j'avais des notes catastrophiques. Et petit à petit, on s'est approprié la méthode et on commence à mieux réussir. Donc, n'hésitez pas vraiment à regarder les corrections qu'on vous fait. Et dernière chose, c'est une question qui nous a été posée aussi lors du live, c'est est-ce que il y a un barème qui est plus ou moins organisé pour la correction des examens? Donc, sachez que la commission nationale qui prépare les sujets, elle établit un barème de correction. Et d'après les informations qu'on avait pu avoir de nos professeurs qui corrigent ces AFPA, ils nous avaient dit que le barème est en fait assez serré. Il y a des fois même c'est des trucs sur un point ou même un demi-point. Donc il y a une marge de manœuvre bien sûr, comme dans n'importe quelle épreuve qui n'est pas purement scientifique quoi. Mais les profs sont relativement encadrés, donc ne croyez pas qu'il y a certains IEJ où vous allez vraiment avoir des notes très très différentes. À partir du moment où vous maîtrisez, vous avez fait beaucoup d'examens blancs. Il y a un barème qui permet de stabiliser un peu les notes de toute la France. Donc voilà, c'était le point que je voulais ajouter. Je sais pas les gars si vous voulez dire une dernière chose avant de conclure.
Ouais, juste deux petits trucs sur ce que Antoine il avait pu dire sur la vitesse qui baisse. Ça, c'est particulièrement vrai que le jour de l'examen, on veut s'appliquer, donc on est un peu moins performant. Mais en même temps, il faut pas aller dans la précipitation, parce que moi, par exemple, sur la note de synthèse, grosse erreur. Enfin, au final, c'est pas ça qui a fait que j'ai eu une mauvaise note à la note de synthèse, mais quand j'ai ouvert le sujet de la note de synthèse, on m'avait toujours dit, à la note de synthèse, il y a toujours un titre à la note de synthèse, et t'inquiète pas, il y a un titre. Sauf que moi, j'ai ouvert le sujet, j'ai commencé à voir le sommaire, mais j'ai pas vu le titre de la note de synthèse. Et au final, ce titre, il était juste sur la deuxième page, mais en bas et pas tout en haut. Et je sais pas si j'avais une... Je pense que j'étais prédisposé à avoir un titre en haut d'une page et il était tout en bas de la page. Et je l'ai vu peut-être qu'au bout de 20 minutes d'épreuve, quand j'avais commencé à lire les épreuves. Et je sais pas si vous saviez le thème qu'on a pu avoir à la note de synthèse l'année dernière, mais c'était l'imprescriptibilité à l'épreuve des droits fondamentaux. En fait, le thème, quand je lisais les documents au début, je me disais... Mais j'ai pas de titre et les documents ils me parlent pas, dans le sens où ça partait je crois de l'imprescriptibilité des cas de cas pénaux, après ça parlait l'imprescriptibilité de vol d'objets d'art en Afrique, mais au début j'avais pas ce terme d'imprescriptibilité et j'étais un peu perdu et ça m'a fait perdre plus de temps d'être dans la précipitation, donc enfin vraiment. Et je sais que c'est quelque chose qu'on a dû vous rabâcher, mais lire tous les documents, et même là, la première page qu'on a tendance à arracher et à sauter dans la note de synthèse exactement, c'est vachement important. Et la dernière petite chose que je pourrais dire, c'est que sur les examens blancs, pour ne pas être dans le rush sur la relecture à la fin, moi, ce que je fais quand j'écris, enfin, je le fais pour tous mes partiels, c'est que je me garde pas de temps à la fin pour relire ma copie, parce qu'en fait, à chaque fois que je réponds à une question, je relis intégralement ma copie. Parce que je trouve que quand on relit sa copie à la fin, j'ai moins d'attention. Et qu'à la fin, j'ai souvent, enfin, je suis un peu dégoûté de mon travail. Voilà, le but, c'est de rendre et de signer à fait et de sortir. Que j'aime bien lire à l'intérieur de ma rédaction à intervalles réguliers pour pas être dans le rush à la fin et de se dire au final je run sur mon quart d'heure de relecture parce que sinon j'aurais pas le temps de finir ma copie. Donc voilà une petite astuce de relecture que je vous partage.
Ok, dernière chose à laquelle je viens de penser qu'on n'a pas forcément dite. Quand vous bossez vos examens blancs, il y en a qui utilisent leurs fascicules pendant qu'ils font les examens blancs, que ce soit ceux qui vont être notés ou ceux qui vont pas être notés. Vraiment, ça, je pense, c'est pas la bonne idée, parce que de toute façon, lors de l'examen, vous n'aurez pas votre fascicule. Donc, prenez juste votre code que vous avez surligné et souligné dans tous les sens, selon votre propre méthode, et n'utilisez que ça, quoi. Enfin, même quand vous faites vos examens blancs en mode rapide, dans les 45 minutes, là, n'allez pas chercher les réponses dans votre fascicule parce que le but, c'est de vous tester, en fait. Donc, ça sert à rien de regarder dans vos fascicules. Je sais qu'il y en a qui le font, mais en fait, je pense que c'est pas très utile. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Donc, testez-vous et le but, c'est... De toute façon, ils sont blancs, ces examens, donc c'est pas grave si vous avez une mauvaise note. Le but, c'est qu'à la fin, vous soyez prêts à défoncer du CRFPA, quoi.
Bon, eh bien, sur ces beaux encouragements... Pardon. Sur ces beaux encouragements, bonne semaine, bonne écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial sur la note de synthèse.
Au revoir.
Pour que l'entraide continue, n'hésitez pas à rejoindre le Discord Destination CRFPA dont le lien est en description. Vous y trouverez non seulement tous les documents que nous mettons à votre disposition, mais vous pourrez également échanger avec nous et les autres membres de la communauté afin de se serrer les coudes et de mettre toutes les chances de votre côté. Pour ne louper aucun épisode du podcast, pensez à vous abonner au podcast sur votre application et à suivre notre page Facebook Destination CRFPA. Toute l'équipe vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne fin de journée.